Maurice Renard, le procès-verbal. Si ça ne vous ennuie pas, me dit Jérôme, voudriez-vous ralentir? Mais comment, cher ami? Comment? Mais nous stopperons même, pour peu que vous le souhaitiez. Eh bien, oui. Un instant. Vous êtes l'obligeance en personne. Allez, arrêtez-nous plus loin, voulez-vous? À la hauteur du réverbère. Mais je m'assure de voir certains lieux où j'ai vécu certaines aventures. Là, oui, c'est ici. Oh, j'ai bonne mémoire. Ces propos s'échangeaient entre mon vieil ami et moi par un beau matin du dernier avril. J'emmenais Jérôme dans le midi, pas en auto, et à l'heure où je vous parle, nous contournions sur un boulevard extérieur l'une de ces villes soucieuses d'ordre de calme qui dérivent ainsi la grande circulation. Le boulevard était large. D'un côté de la ville, on le voyait bordé d'hôtels particuliers, entouré de jardins, et de l'autre côté, une sorte de parc public sans beauté s'étendait vers la campagne. Jérôme avait mis pied à terre. Les mains dans les poches, il examinait d'un œil perçant l'endroit qu'il avait désiré revoir. La chaussée, le trottoir très spacieux, planté de deux rangées de platanes, la grille du jardin, dont le portail arborait le numéro 35. Oh, c'est bien cela, dit Jérôme. La même chose s'est produite en face du numéro 35. Je l'avais rejoint. Heureux, comme tout de me dégourdir les jambes. « Voyez, dit-il en étendant la main, j'arrivais de là, je venais du pont de Saint-Marcel, et les autres venaient de l'autre sens de la porte du Vieux-Clin, où nous venons de passer. » J'attendis patiemment que Jérôme eût achevé de procéder en lui-même, et je ne sais quelle reconstitution, un sourire mystérieux flottait sur son visage. Enfin, il me prit le bras avec une évidente bonhomie et il commença. Il était un peu plus de minuit. Pas de lune, mais des étoiles. Belle nuit de septembre. Le tout, ici, tout dormait. La file des réverbères n'éclairait que deux agents qui déambulaient sous les arbres le long des grilles. Voilà le décor. Le décor où je débouchais tranquillement, conduisant ma modeste torpedo, qui à l'époque me rendait bien des services, malgré sa vieillesse. Je n'étais pas seul. J'avais près de moi quelqu'un que vous connaissez. Gérard, votre secrétaire. Non, non, une dame, mon cher, une dame. Oh, je ne vois pas qui cela pouvait être, dis-je, fort intrigué. « Oh, vous n'avez pas besoin de le savoir. Maintenant. Donc, nous arrivions sans nous presser quand j'aperçois devant moi, au virage, une lueur de phare, puis bientôt les deux projecteurs d'une voiture qui filait à bonne allure. Je tenais ma droite correctement, mais l'autre voiture, qui occupait le milieu de la voie ne semblait pas vouloir se ranger. Alors, j'appuyais davantage sur ma droite jusqu'à toucher presque le trottoir. Bien entendu, j'avais mis mes phares en code, mais ceux d'en face restaient à plein feu et m'aveuglaient tellement que je fis halte. Je fis halte et si très exactement ici, c'est à 7 minutes que j'aperçus, à la clarté éblouissante qui venait vers moi, les deux agents immobiles qui regardaient. La dame auprès de moi remarqua « Oh, magnifique contravention !»« Mais si vous aviez été là, vous auriez été bien inquiet sur notre sort. » C'était à croire qu'un fou, sinon un ivrogne, conduisait cette maudite voiture. Elle s'avançait en zigzag. Et bien que toute la chaussée lui fût offerte, elle s'obstinait curieusement à demeurer sur sa gauche. Je m'exclamais très haut pour être entendu des agents. « Mais mon Dieu, quel est le soulard qui conduit cette voiture ?» Je n'avais pas terminé que nous étions accrochés dans toutes les règles, avec un fracas retentissant. Ma compagne poussa un cri aigu. Par bonheur, ni elle ni moi ne nous étions touchés. Mais les deux voitures étaient prises l'une dans l'autre. Les marchepieds emboîtaient leurs débris. J'avais sauté dehors en allant au plus pressé. Et je me criais « Messieurs les agents, s'il vous plaît !» Ils sortirent de l'ombre où ils s'étaient confinés et ils avaient replongé. Là, constatait avec plaisir que c'étaient deux gaillards particulièrement robustes, l'un roux, autant qu'il me semblait, et l'autre brun. « Il n'y a pas trop de mal, » dit le roux, fort paisiblement. « Pardon, pardon, monsieur l'agent, protestais-je. Ma voiture, constatez-le, est en piteux état. Et si vous avez pu remarquer, primo, que mes phares étaient en code à moi, et secondo, que je me suis arrêté pour laisser passer cet énergumène. » Là-dessus, une voix joyeuse, mais hélas, lamentablement enroué et empâté, se fit entendre. Les occupants de l'auto-tamponneuse, une limousine, étaient sortis de leur boîte. Il y avait là un jeune homme élégant, en tenue de soirée, et deux femmes enveloppées de fourrures luxueuses. Le jeune homme était là, proie d'accès de rire inextinguible, comme seules l'ébriété en produit chez les humains. À peine pouvait-il s'exprimer. « Tordant, mon vieux, oh, on aurait pu se casser la figure. Y'a Dieu, bonsoir de bon Dieu, y'a Dieu. J'aurais jamais cru, mais c'est fait, il y en a un. Robert, fit l'une des dames. Oh non, avec un ton de reproche. Vous le voyez, messieurs, dis-je froidement, au gardien de la paix. Cet homme est ivre. Oh, soyez sans crainte, ce sera concilié dans le procès verbal. Et l'agent, brun, avait tiré de son calepin et il prenait des notes. Quel est le numéro de votre voiture ? Exhibez votre permis de conduire, dit-il au jeune homme. Robert, je vous en prie, un peu de tenue, ordonna sèchement la belle dame qui s'était déjà intervenue. Bon, rien n'y faisait. Robert, vacillant, déclarait. Les agents, moi je les aime, les agents. C'est des copains, les agents. Et il se jeta au cou du rouquin, qui ne pouvait s'empêcher de rire. Mais alors, mon cher ami, un étrange changement à vue s'opéra. Un coup de sifflet strident retentit parmi nous. Le rouquin cessa de se divertir et son camarade poussa un juron fort inattendu. Car le dénommé Robert avait en un clin d'œil recouvré tout son sang-froid. Il ceinturait vigoureusement son adversaire et moi-même, aidé par les deux élégantes, j'avais terrassé l'agent brun. Quant à la dame qui m'accompagnait, elle secondait avec impétuosité l'action du faux ivrogne. Cette dame était donc en effet, oui, n'était autre que Gérard, mon secrétaire. Quant aux déesses de la limousine, la première s'appelait Inspecteur Sursol et la seconde le brigadier Brunelev. Nous avions machiné tout cela pour essayer d'arrêter deux dangereux malfaiteurs qui faisaient du guet, déguisés en agents, pendant que leur bande dévalisait l'hôtel du numéro 35, dont les propriétaires étaient absents. À mon coup de sifflet, nos camarades avaient fait le nécessaire concernant le gros de la troupe. La bataille était gagnée. Chacun avait bien joué son rôle, y compris les deux agents, qui n'étaient pas de braves gens. Mais pouvait-il s'en dispenser ? Allez, je suis votre homme. Maintenant, nous repartons. En route, dis-je. Mais si vous avez encore d'autres à me raconter, mon bon Jérôme, ne vous gênez pas.